Bonjour à tous, nous voici revenus à l'heure du carillon sur CFM 90.2, mais aussi sur Radio Présence à Figeac qui rediffuse cette émission et nous les remercions de ce partenariat. Donc tous les mois, quelques chrétiens de Villefranche, du Villefranchois, abordent un sujet avec des invités. Aujourd'hui, nous sommes encore début novembre et tous marqués par les visites au cimetière. En effet, que l'on soit chrétien ou pas, ce 1er novembre, ce 2 novembre, fête de la Toussaint, jour des morts, c'est l'occasion pour les familles de se souvenir de leurs défunts et d'aller sur les tombes, honorer ceux qui sont partis, avec un brin de nostalgie, un peu de peine, et pour continuer à ne pas les oublier et à les garder présents dans leur cœur. Alors, c'est vrai qu'il y a une confusion pour les gens entre Toussaint, jour des morts. Toussaint, pourquoi ? Parce que c'est un jour férié, alors les gens vont plus facilement ce jour-là sur les tombes, et jour des morts, mais c'est une manière d'honorer, disons, les saints de nos familles, ceux qui nous sont plus proches et que nous avons connus, alors que la Toussaint, c'est la foule innombrable des inconnus. Voilà, bon, mais ça, c'est une démarche croyante, mais... croyante, mais elle dépasse le cadre de la foi, puisque nous savons que pour les célébrations d'obsèques, et nous en parlerons, pour le rite des funérailles, nos églises sont pleines, et les gens, qu'ils soient loin ou proches de la foi, qu'ils soient pratiquants, célébrants ou pas, ils tiennent beaucoup à ces rites-là, et c'est vrai que des nouvelles dispositions dans nos paroisses et dans nos diocèses posent parfois quelques questions aux personnes. C'est vrai que depuis que l'homme est l'homme, eh bien, il y a le culte des défunts. D'ailleurs, les anthropologues disent que c'est même cela qui a déterminé le groupe humain par rapport au groupe animal avec ce culte des défunts. Et il y a des divers rites suivant les croyances, suivant les cultures, suivant les époques pour accompagner, avoir mémoire de ces défunts. Et parce que la question de la mort, elle nous occupe tous. La mort est inéluctable et on peut pas l'éviter. C'est notre lot à tous. Et cette question nous obsède. Pourquoi je suis là aujourd'hui et demain je ne serai pas là? Qu'est-ce qu'il y aura après moi? Comment la vie va continuer pour les autres? Eh bien, les hommes de tout temps ont eu besoin d'accompagner ces rites, par des rites, le passage dans la mort. D'ailleurs, vous savez, il y a des récupérations aussi un petit peu commerciales. La fête d'Halloween, c'est un culte celtique sur la mort qui a été récupéré pour faire un peu de business à cette occasion-là. Voilà, mais on en est là. Et c'est notre vie qui est comme ça. Alors, on va essayer d'aborder, mais simplement, toutes ces questions ce matin. Alors, autour de la table, l'équipe habituelle que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu la voix, et puis deux invités. Alors, nous commençons par présenter les invités, si tu veux bien. Voilà, Françoise.
Alors, je m'appelle Françoise Richy, je suis à Villefranche depuis 10 ans. Je viens du diocèse de Nancy, et mes premières funérailles sans prêtre datent de 2000. Je fais également partie de l'équipe EAP, qui est l'équipe d'animation paroissiale. Juste un petit mot, il faut savoir que les funérailles chrétiennes ne sont pas un sacrement, mais une prière chrétienne, un accompagnement de la communauté.
Et puis il y a aussi Christian qui est avec nous.
Oui, je m'appelle Christian Rey, je suis ancien enseignant à la retraite depuis 1995. Après avoir assuré un service d'église auprès des enfants dans la catéchèse pendant plus de 30 ans, j'ai accepté un service auprès des familles en deuil depuis 1995. Et j'ai aussi d'autres engagements paroissiaux. Voilà.
Merci. Et puis, voilà, les membres de notre équipe habituelle.
Et Michel Montbressou, je fais partie de l'équipe d'animation de cette émission.
Voilà, Bernard Lauriac, comme Michel, et il y a l'absence d'Émilie, qui est la femme du groupe, mais qui sûrement a du travail aujourd'hui, qui n'a pas pu venir.
Voilà, donc nous sommes là, et vous l'avez remarqué par l'intervention de Françoise et de Christian, déjà, qui vont prolonger cette intervention, nous allons parler des funérailles chrétiennes. C'est une émission des chrétiens vous parlent, l'heure du carillon, nous allons parler donc des funérailles chrétiennes plus spécifiquement, parce que c'est vrai que dans nos paroisses, depuis quelques années et de plus en plus, ce sont des laïcs qui accompagnent les familles en deuil et qui accompagnent les funérailles. Ça ne veut pas dire que le prêtre n'est pas présent aux familles. Il y a un autre moment qu'à celui de la célébration même où on accompagne le défunt. Donc voilà, ce sont ces questions que nous allons aborder aujourd'hui, mais il faudrait faire toute une émission sur les rites de la mort dans diverses cultures, diverses religions, et on verrait que des choses se recoupent et se retrouvent. Mais pour l'instant, nous allons parler de cela après peut-être une première pause musicale. Donc on vient d'écouter ce chant, et vous avez compris que l'heure du carillon, une émission animée par des chrétiens, aborde aujourd'hui cette question de la mort, mais du côté de la foi chrétienne. La foi ne rend pas les séparations ou l'absence des êtres chers moins douloureuses, mais elle permet de garder la petite étincelle de l'espérance. L'écriture et la tradition du christianisme nous invitent à nourrir nos existences de cette conviction que le voile de deuil est enlevé, parce qu'il n'y a plus de larmes, parce que la mort est détruite. Voilà. Donc, l'accompagnement des funérailles et des familles en deuil, c'est essayer de permettre à cette petite étincelle, cette petite flamme de l'espérance de rester allumée. Et pour commencer, Christian va nous parler un petit peu de l'historique de ces célébrations accompagnées et vécues avec et par des laïcs.
Oui, alors c'est depuis 1995, il y a donc une vingtaine d'années, que des chrétiens laïcs se sont impliqués dans l'animation des célébrations, donc célébrations de sépulture. Avant 1995, les sépultures étaient surtout conduites pratiquement à 100% par les prêtres. Depuis donc 1995, je participe à l'accompagnement donc de ces célébrations parce que les prêtres m'ont demandé, et le père Ginestet à cette époque-là m'avait demandé de l'accompagner auprès des familles quand on allait visiter donc ces familles en deuil, et en même temps ensuite assurer à l'église donc une aide à ces célébrations. Voilà. Alors donc pendant plusieurs années, j'ai ainsi donc accompagné les familles en deuil en même temps que les prêtres. Puis petit à petit, les prêtres ayant moins de temps libre, étant occupés par peu nombreux, étant occupés par par leur travail paroissial, ce sont des laïcs qui à partir de 2008-2009 ont assuré ou assurent plus exactement le service donc de ces célébrations. Voilà. Donc depuis que ce sont des laïcs qui assurent ces célébrations, il n'y a bien sûr plus de messe pendant la célébration elle-même. Cependant, une messe est toujours dite pour les défunts des familles, et cette messe est célébrée le dimanche suivant, après la sépulture.
Oui, mais vous savez, Christian, que cette façon de procéder crée polémique. On ne peut pas, je crois, dans cette émission, ne pas aborder ce fait que beaucoup de personnes ne sont pas contentes de cette manière de faire. Bon, il est vrai que, vous l'avez dit, il y a un manque de prêtres, mais est-ce que ce ne serait pas de leur rôle que d'accompagner, comme ils le faisaient auparavant, même si l'enterrement n'est pas un sacrement, d'accompagner les personnes qui décèdent, parce que certains ont considéré que l'Eucharistie était le sommet de la foi chrétienne, et ne pas avoir, lorsque l'on s'en va, une messe, ça fait polémique et ça pose problème. Alors j'aimerais que Françoise, qui elle aussi fait partie de l'équipe des funérailles, ainsi que vous, Christian, vous répondiez à cette question que se posent beaucoup de personnes.
Alors je dirais que le prêtre n'est pas absent de ces célébrations, puisque c'est bien lui qui assure la messe ensuite le dimanche suivant pour ces personnes qui dans la semaine ont quitté. Donc le prêtre est conscient et est pris pour ces personnes donc qui nous ont quitté dans la semaine.
Mais ne pourrait-il pas être là le jour de l'enterrement?
Oui.
Alors, oui, je comprends ta question et tu as raison de la poser. Moi je dirais, comme je disais en Lorraine, toute personne a droit à voir le prêtre, toute personne a droit à voir l'Eucharistie. Je pense que Jésus est venu pour tout le monde, est venu pour les petits, et comme pour les grands. Mais quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Que fait-on de nos prêtres moins nombreux? Que fait-on de nos prêtres vieillissants? Est-ce qu'on on abuse d'eux, abuse entre guillemets? On les met avec plein de travail? Alors, que faisons comme ça, puisque j'ai dit tout à l'heure, les funérailles ne sont pas un sacrement, faisons comme ça, on permet à ces prêtres d'être présents à d'autres réalités, on les permet aussi de toujours continuer à nous célébrer l'Eucharistie, et Dieu sait qu'on en a besoin, tu viens de le signaler toi-même. Maintenant, comme a dit Christian, le prêtre n'est jamais absent, c'est lui qui célèbre la messe, il rencontre les familles. Quand les familles sont dans l'église, on va le chercher pour qu'il dise bonjour. L'autre fois, j'avais une famille en deuil. Je suis allée lui demander s'il avait deux petites minutes pour saluer cette famille et lui dire bonjour. Donc voilà, préservons nos prêtres, puisqu'ils sont peu nombreux. Accompagnons-le, travaillons avec eux. Et nous, laïcs, faisons le service pour lequel on est missionnés.
Voilà, je voudrais, puisque je suis prêtre, moi, et Didier donc, je voudrais un peu reprendre ce que dit Françoise et ce que dit Christian. Les prêtres sont présents à une autre manière. La manière habituelle aujourd'hui de célébrer les funérailles, c'est en deux temps. Le temps de la célébration avec le corps et le temps du sacrifice du Christ offert pour le défunt, c'est la messe, et là le prêtre, bien sûr, est présent. Les orientations de notre diocèse sont sorties il y a 3 ans, et l'autre jour, à une réunion de prêtres, nous avons fait le point avec l'évêque. Pour dire que, bien sûr, si le prêtre est libre Et si les familles y tiennent absolument, le prêtre peut être présent, mais il faut que les familles acceptent de rentrer dans l'agenda du prêtre. Je donnais un exemple un jour à une personne qui me dit cela, qui me dit « Vous n'êtes pas là pour les funérailles ». Eh bien, j'ai dit non, j'accompagne un couple pour la préparation au mariage. Ce serait votre petite fille que j'accompagne au mariage, ou quelqu'un de qui vous est proche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que je laisse tomber le couple et que je vienne célébrer les obsèques alors que j'y serai présent de la même manière. Voilà.
Voilà, c'est donc un problème de possibilité.
Voilà, c'est un problème, parce que le prêtre ne refuse pas. Mais regardez nos agendas aujourd'hui, et puis alors, il y a des paroisses où il y a une cinquantaine, soixantaine de funérailles par an, donc le prêtre peut être présent de temps en temps, c'est mon cas à moi. Il y a d'autres paroisses que j'ai connues où il y a 280, 290 funérailles par an, c'est plus possible. Donc, on est présent aux funérailles quand on le peut matériellement. Voilà. Voilà la réponse. Et puis, on peut continuer sur cette question. Mais je comprends que ça trouble des gens. Alors, quand tu dis tout le monde est troublé, Michel, je crois pas. Les gens qui sont un peu proches de l'Église et qui connaissent un peu nos difficultés, qui participent réellement à la vie de l'Église, comprennent cette situation. Ceux qui sont un peu plus éloignés et qui ont moins de contacts, et c'est pas un reproche, ont plus de mal à comprendre cette situation. Voilà. Si tu veux bien, Christian, alors tu avais encore deux, trois choses
à
rajouter.
Je voudrais quand même ajouter que si les prêtres sont absents de la célébration elle-même, les familles en deuil et qui ont reçu en quelque sorte un peu nos services, qui ont utilisé notre service de laïque, sont très satisfaites de ces célébrations. J'ai eu des retours très souvent de la part des familles me disant que la célébration avait été très priante et très bien pour eux, pour elles. Voilà.
Oui, sur autre chose, moi je voudrais vous interroger. Parce que la foi est bousculée par la mort. Dans des gens très très proches, quand il y a la mort d'un enfant, quand il y a une mort traumatique à la suite d'un accident, les gens disent « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ? Comment vous vous débrouillez face à ce scandale pour telle famille de voir un enfant innocent qui meurt ?»
Alors, en Lorraine, moi j'ai accompagné une famille, elle habitait pas loin de chez moi, on peut dire presque à côté, qui avait perdu un enfant de 18 ans suite à un accident. Et j'ai envie de dire que dans cet accident, il était peut-être le seul qui était clean ce soir-là, puisqu'il revenait de boîte de nuit. Le père, surtout, était dans un état d'agressivité épouvantable, agressivité envers l'Église, agressivité envers le prêtre, qui n'a pas voulu d'ailleurs, il a voulu que ce soit nous les laïcs qui nous occupions de ça. Une agressivité épouvantable, il était dans un état de stress. Même moi, à un moment, je sais que pendant l'entretien funéraire, je priais parce que je savais plus quoi lui dire. Et il m'avait bien dit, surtout ton bon Dieu d'amour, ne m'en parle pas, parce qu'il est pas là, ton bon Dieu d'amour. Alors je n'ai fait qu'une chose, c'est écouter. Je me suis jamais permis de lui dire, si Dieu est amour. Et il m'a dit à un moment, ne parle pas de la résurrection. Je lui ai dit, écoute, tu m'excuseras, tu es venu nous voir. Tu es venu demander un accompagnement par l'Église. Je te parlerai de la résurrection, puisqu'il me tutoyait. Mais tout doucement, progressivement, calmement. Et je dois dire que dans cet entretien, dans cet accompagnement, il s'est calmé petit à petit, à pouvoir rencontrer le prêtre plus tard, à pouvoir venir en reparler avec moi très calmement. Mais dans des moments comme ça, moi, je fais silence. Et je ne suis qu'écoute. Je ne peux pas.
Il est vrai que Françoise a tout à fait raison. Vous savez, il y a une mauvaise habitude, je crois, quand je lis des faire-part de décès. Par exemple, je vais vous dire des choses que vous lisez souvent dans les journaux. Il a plu à Dieu de rappeler son fidèle serviteur, tu parles. Si notre Dieu est de tout temps, il n'appelle pas Dieu, il accueille. Dieu est notre présent, il accueille. Et moi, j'ai tenu pour les obsèques de maman et d'autres à dire, Dieu nous accueille, il nous appelle pas. C'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui conduit la voiture, c'est pas lui. il y a ce mystère du mal. Et on peut en vouloir à Dieu qu'il ait tout créé et qu'il ait laissé l'homme confronté au mystère du mal, de la maladie, de la déchéance, de la mort, de l'injustice. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a des moments où on peut se dire, mais qu'est-ce que tu fous, Dieu ? Et les psaumes disent cela. Et le Christ a pris les psaumes pour lui. Mais il faut essayer de dépasser cela en disant, Dieu accueille. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vie.
Après cette intéressante explication, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, Françoise, à savoir que cette personne qui était hors d'elle, et on peut le comprendre, qui ne serait pas dans un état épouvantable de souffrance devant la mort de son enfant. C'est quelque chose que l'on ne peut que comprendre, et je trouve très bien d'accueillir cette personne en l'écoutant. C'est ce qu'il faut d'abord faire. Mais tu as parlé de résurrection. Alors je crois qu'il faudrait peut-être préciser que lorsque l'on est décédé, on est accueilli justement par le Seigneur sans attendre spécialement la résurrection. Et je crois qu'il y a une explication à donner par rapport à cela. Alors peut-être tu es le mieux placé, toi le prêtre Didier, pour nous donner l'explication de résurrection, présence directe après le décès auprès du Seigneur.
Alors voilà. Pour moi la résurrection c'est le centre de ma foi. Et il n'est pas forcé que les gens que je reçois, que nous recevons, aient cette même... C'est le même sens de la foi en la résurrection. Donc, je dois aussi tenir compte des personnes qui sont devant moi. C'est ma foi, moi. J'y crois profondément, mais je dois accueillir ces personnes-là qui peut-être ne croient pas.
Oui, mais il y a des fondements dans l'Église. Je pense qu'il est bon de se référer à eux.
Oui, d'accord. Tu as raison. Mais... on pourrait parler de la résurrection. Je veux pas je veux pas éviter la question. Mais sache que pour beaucoup de gens aujourd'hui, dans le contexte actuel, venir célébrer des obsèques à l'église, c'est d'abord venir honorer un défunt, c'est venir accompagner une famille avant que d'être une démarche de foi dans la résurrection. Pour beaucoup. Pour quelques-uns, il reste ce mystère, cette petite question, la foi de Pascal, si jamais, si jamais. Alors que pour nous, chrétiens, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La résurrection du Christ, c'est déjà notre résurrection. Et depuis notre baptême, nous sommes déjà vivants, ressuscités avec le Christ. Être ressuscité, c'est être vivant pour toujours.
D'accord, mais je voudrais qu'on rentre dans cette précision. Ce que tu dis est intéressant, et on parle uniquement de la résurrection, mais il y a... je dirais pas à côté de la résurrection, mais la question que se pose chacun, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est bon, parce que la résurrection c'est quelque chose qui peut intervenir plus tard, c'est toujours flou dans l'Église ce genre d'explication, enfin pour moi, et les gens veulent savoir si celui qui est parti, eh bien est-ce qu'il vit auprès du Seigneur déjà, voilà ce à quoi il faudrait répondre assez précisément à mon avis.
Le problème c'est qu'on est dans un monde qui refuse une part de mystère, une part d'interrogation. Tu sais, en France au moins, mais dans le monde un peu, il faut pas dire merci à Descartes. Le rationalisme nous a tout foutu par terre. Il faut parfois faire le saut dans la foi, le saut dans l'inconnu, le saut dans l'amour.
Il faut dépasser le rationalisme.
Et là, les questions que tu poses, il faudrait que je réponde comme non. On vit dans la foi l'expérience de Dieu présent à ma vie, alors, présent à la vie des hommes. Alors, je peux pas répondre de façon comme un théorème.
D'accord, mais je crois que c'est important, je me permets d'intervenir, mais je vais arrêter. Mais comme tu as dit tout à l'heure que pour ce qui te concernait, tu as affirmé ta foi, moi je veux quand même dire que, et je crois pas que je sois en désaccord avec l'Église, qu'on peut dire oui, lorsque une personne décède, eh bien elle va être accueillie dans l'éternité d'amour. Oui. Va être accueillie par le Seigneur, celui qui a voulu que nous existions, puisque nous ne sommes pas nés du hasard.
Mais dans nos oraisons, on le dit, nous, dans nos prières, dans notre rituel, on le dit.
Donc voilà. Nous sommes d'accord.
Voilà. Oui. On écoute de la musique et on y revient après. Alors, Jésus, que ma joie demeure, Bach, c'est pas mal. Okay. Hein. Voilà. Oh, ouais. Thank you.
Chers amis qui nous écoutez sur CFM 90.2 ou sur Radio Présence à Figeac, je vais vous faire une petite confidence. Sachez que pendant la pause musicale, nous discutons beaucoup entre nous. Pour vous dire que tous nous sommes confrontés à des questions. C'est pas parce que je suis prêtre que j'ai la bonne réponse. J'essaie avec mes frères de cheminer dans la foi, malgré les questions, malgré les zones d'ombre. Et nous avons, pendant la pause musicale, nous parlions de ça les uns et les autres. Et Christian faisait une petite remarque que je lui demande de refaire maintenant. Oui.
Bon, l'habitude me présente des familles qui peuvent choisir donc entre la sépulture civile et la sépulture religieuse. Donc, je pense que les familles qui souhaitent une sépulture religieuse ont quand même, au fond d'elles-mêmes, une espérance en la vie après la mort. Je pense que nous, en tant que chrétiens, nous essayons justement auprès de ces familles de faire vivre en elles cette espérance. Cette espérance en la vie plus forte que la mort. Et même si, bien sûr, nos raisonnements et ce que nous voyons ne nous encouragent pas dans cette idée-là. Mais c'est le Christ qui nous a laissé sa parole et son message. C'est le Christ qui nous guide. C'est le Christ qui est passé par la mort et qui s'est montré vivant. Et donc, pour nous, chrétiens, nous vivons cette espérance que la mort n'est pas la fin, que la mort est un changement de vie et que nous sommes tous appelés donc à vivre ce changement.
Longtemps dans l'Église, on voulait mettre en exergue l'esprit d'abnégation, d'acceptation, de je sais pas quoi, et alors que je pense qu'aujourd'hui, il faut dire que la révolte est un sentiment normal. La révolte est un sentiment légitime par rapport à la mort qui est toujours injuste, qui est toujours un scandale. La révolte est donc une manière de se battre, de continuer à vouloir vivre, de dire quelque chose. Et le Christ, vous savez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on sait bien la fin du psaume 21, ce qu'il va dire, mais ces sentiments sont tout à fait ils habitent le cœur de l'homme et c'est une bonne chose parce qu'ils permettent de continuer la route. Voilà, alors maintenant, peut-être on va laisser la parole davantage à Françoise pour qu'elle nous dise un petit peu le chemin. Et je voudrais faire une précision avant cela. Tout à l'heure, Christian disait les années ici à Villefranche et dans l'Aveyron, depuis le nombre d'années depuis qu'il accompagne les funérailles, mais sachez que depuis 1972, l'autorisation a été donnée par Rome que des chrétiens accompagnent la célébration des funérailles. Depuis 1972. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors, Françoise, si tu veux.
Bon, je pense que vous voulez que je vous parle comment on accompagne une famille en deuil.
Eh bien, voilà.
Voilà. Bon. Alors, pour moi, accompagner une famille en deuil, c'est un service d'église. C'est un service auprès de mes frères qui sont dans la peine. C'est le ministère de la compassion. C'est un service bénévole gratuite. Alors, moi, ça tourne autour de trois mots. Accueil, écoute et discrétion. Alors, quand je dis écoute, c'est une écoute. C'est-à-dire, je ne fais pas marcher mon petit bavardage mental. Je suis vraiment dans l'écoute. Alors, c'est toujours à deux ou trois que nous rencontrons les familles. Pourquoi? Parce que, on le sait, le Christ a envoyé deux par deux ses apôtres et c'est plus facile de recevoir à plusieurs afin de savoir bien cerner ce qu'on entend. Alors, les familles, je les reçois au nom de l'Église. C'est pas Françoise qui reçoit, même si c'est elle. C'est au nom de l'Église. Je respecte le choix des familles, nous respectons le choix des familles et le rituel. Il faut tenir les deux. Le rituel permet de donner distance à la mort. Et donner aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la dimension de l'espérance et de la miséricorde. Bon, c'est sûr, moi j'aime bien le travail bien fait, j'ai toujours un peu le trac. Avec le temps, j'ai appris à gérer, à me contrôler. Et avec les familles, nous préparons la célébration en tenant les deux points, comme j'ai dit tout à l'heure, le souhait des familles et le rituel. Parce que c'est le rituel, ce n'est pas notre façon de faire, c'est le rituel qui a été fait par le Vatican, par les évêques de France. Didier pourra en dire un mot tout à l'heure, mais c'est ça qui est notre guide. C'est pas la prière que je veux dire, c'est la prière du rituel.
Le rituel, tu peux préciser comment, quels sont les points
Alors,
je pense à l'encens peut-être à,
Non. Vois-tu, l'encens est facultatif même si tu veux. Alors. Les familles, s'ils n'en veulent pas pour raison personnelle ou raison médicale, on n'est pas obligé de le faire. Le rituel sur lequel on s'appuie, c'est, comme je viens de le dire, c'est fait par les évêques, par le Vatican et tout ça. C'est le rituel, comme tu as un rituel pour le baptême, comme tu as un rituel pour la messe, tu ne fais pas n'importe quoi, le prêtre ne fait pas n'importe quoi. Donc quand on aura rencontré la famille, quand on aura vu avec la famille ses désirs, ses souhaits, nous on va travailler sur le rituel avec la collègue ou le collègue qui est avec moi. On va choisir les oraisons, les prières.
Mais la famille peut choisir ses textes, non ?
Non. Alors, la famille choisit les textes bibliques.
D'accord.
C'est-à-dire la première lecture, le psaume et l'évangile.
D'accord.
Non, elle peut lire aussi ses textes.
Donc là, elle participe, là. Hein.
Sauf l'évangile qui sera lu et par la personne qui conduit les funérailles. Mais si tu veux, la famille ne choisira pas les oraisons, ne choisira pas les prières. Elle peut aussi choisir ses morceaux de musique. Elle peut faire l'accueil du défunt qu'elle présente, si elle le veut. Mais sans oublier que c'est la communauté chrétienne qui accueille.
Oui, hein, mais c'est important pour elle de retracer ce qu'a fait la vie du défunt.
Alors, elle peut le faire. Elle peut aussi, à un moment, porter témoignage et dire « Papa ou maman ou grand-mère, voilà, je viens te dire quelque chose. » Il y a des points pour la famille. La famille peut participer, peut prendre parole à certains moments. Mais nous, c'est toujours, on s'appuie sur le rituel, si tu veux.
Mais si tu veux, pour dire les choses simplement pour les gens qui nous écoutent, le rituel, c'est une trame qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Ce sont des balises pour la route. C'est une trame. Et là, dans cette trame, il y a des choses qui sont prévues, possibles et pensables. Et ensuite, la famille habille cette trame à ses propres couleurs, par le choix des textes, par le choix des prières universelles, c'est-à-dire la prière des familles, par le choix d'un témoignage ou d'un poème, par le choix des musiques, tu vois. Mais c'est vrai que pour ceux qui conduisent les funérailles, il y a diverses possibilités, avec la lumière, avec les fleurs, avec la croix, avec tout un tas de choses comme ça, mais qui sont des annexes. Tout ça, c'est possible, et on le met en place en lien avec la famille.
Voilà. Je voudrais revenir là sur ce qui a été dit au début. Je t'ai laissé développer ta préparation, qui était une bonne réponse. C'était intéressant, je crois, pour nos auditeurs. Mais tu as parlé de gratuité. Je crois qu'il faudrait l'expliquer. Ça, tout n'est pas gratuit.
Alors, quand je parle de gratuité, je dis que nous, qui sommes missionnés par l'Église pour accompagner les funérailles, nous le faisons gratuitement. C'est-à-dire que nous n'avons pas de salaire, ni de la part des familles, ni de la part de la paroisse. Si la famille, parce qu'elle a été contente, parce que ça m'était déjà arrivé, me donne de l'argent, c'est déjà arrivé, j'appelle la famille pour la remercier et je redonne cet argent à l'Église.
D'accord, mais l'Église fait payer quelque chose.
Alors, l'Église fait payer un service d'Église qui est de 110 euros. Sur ces 110 euros, il y a 17 euros qui vont automatiquement pour cette messe. Il y a une partie qui est redonnée au diocèse pour les prêtres, la caisse, Didier pourra en parler mieux que moi, et une autre partie qui est pour la paroisse. Tu es bien d'accord avec moi que quand tu viens à la collégiale, elle est éclairée, en hiver elle est chauffée, elle est balayée, elle est nettoyée, et tout ça a un coût.
Mais ce n'est pas de l'argent volé, je suis tout à fait d'accord avec cette répartition, mais il fallait le dire.
Voilà, oui. C'est-à-dire que, alors si vous voulez, autrefois, souvent, mais notre évêque a voulu que ce soit autrement, je parle pour notre diocèse, parce que les pratiques sont un peu différentes, et je trouve que c'est très bien. Souvent, les familles payent directement à l'entreprise des pompes funèbres le coût de la célébration, ce qu'on appelle le casuel, parce que c'est pas une facture, c'est un casuel, c'est-à-dire un don fait à l'Église pour l'entretien, pour tout ce que vient de dire Françoise à l'instant, le payer aux pompes funèbres qui le reversait à la paroisse. Maintenant, on souhaite que ce soit versé directement par l'intermédiaire du prêtre ou de son équipe. Pourquoi cela? Parce que si une famille est dans le besoin et tout, rien ne nous empêche de dire, écoute, tu paies pas ou tu paies moins, voilà, et ça dépend des familles et des situations. C'est-à-dire, c'est pas un tarif, une facture, comme quand tu fais venir telle entreprise chez toi, c'est tant de l'heure. C'est pas ça. On propose une somme de 110 euros que les familles peuvent donner, avec la répartition dont a parlé Françoise, et ensuite, il nous appartient à notre jugement. Voilà.
Merci pour cette précision charitable.
Dans ce que dit Didier, il y a aussi, moi, pour moi, une autre dimension que l'évêque, je pense, par en dessous a souhaité, c'est qu'on a la joie. Je dis la joie parce que ça nous fait toujours plaisir, Christian pourra le témoigner, de revoir les familles. Et quand on est là, nous, à la permanence, et qu'on revoit à nouveau les familles, qu'on peut rediscuter dans un calme, dans une sérénité, puisque le gros est passé pour, enfin, le gros de la célébration, je veux dire, le deuil n'est pas fait, hein. Il est entamé. Et on a toujours tellement de plaisir à revoir ces familles.
Voilà, alors, on a vu un peu le cadre, le rituel, la manière dont ça s'est préparé, les raisons pour lesquelles nous faisons cela, sachant très bien qu'il est bon de prier pour et avec nos morts. Voilà, tout cela, ça a été dit. Et je crois que Bernard avait noté quelques questions de l'ensemble des gens qu'il se pose. Alors, on en a abordé quelques-unes, mais il y en a peut-être d'autres, Bernard.
Oui, j'en citerai quelques-unes. Comment les liens perdure, comment entretenir le souvenir, les liens, comment réagir, que se passe-t-il après, c'est des questions qu'on s'est toujours posées dans toutes les civilisations. Je me rappelle, comme professeur d'histoire-géographie, les élèves, quand on parlait de l'Égypte et de la momification, ils étaient particulièrement intéressés par ces problèmes de la mort et de la façon dont on les traitait dans différentes civilisations. Moi, j'ai été à Madagascar et là, on m'a invité aux Famadiennes. Alors, j'explique, ça veut dire l'exhumation. Là, on allait jusqu'à exhumer les morts, on les enveloppait dans une natte et on faisait une procession dans une atmosphère de fête, de réjouissance, on chantait, on jouait de la musique. C'était ce qui se faisait sur les hauts plateaux par les Mirina et les Betsileo. Chez les Antandroïdes du Sud, ils sacrifiaient des zébus. Jusqu'à, dans les riches familles, jusqu'à 50 zébus, ce qui posait des problèmes économiques après, vous voyez. Alors, il y a comment les liens perdurent, c'est différent suivant les civilisations. Sur le problème, que se passe-t-il après? Donc, tous les hommes se posent la question, est-ce que tout s'arrête là ou est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais je dirais aussi, comment réagir? Et là, je me permets de citer deux exemples qui m'avaient frappé. Après l'histoire de, vous savez, à Montauban ou à Toulouse, Mera, qui a tué un militaire, la mère de ce militaire, on l'a vu à la télévision, elle s'appelait Latifa Ben Ziaten, elle a été dans les écoles pour expliquer aux jeunes comment elle avait vécu ça et pourquoi il fallait réagir autrement à ces problèmes de l'islam aujourd'hui. Et le deuxième exemple que je voudrais citer, c'est l'exemple d'une journaliste de La Croix qui s'appelle Geneviève Jørgensen. Elle a monté la Ligue contre la violence routière et elle a milité pour le permis à points. Elle a milité pour l'alcool au volant parce qu'on lui un chauffard alcoolisé avait tué quand même ses deux petites filles. Vous rendez compte, hein? Donc elle a également milité pour le siège des bébés. Donc vous voyez, je crois que la présence des défunts et puis comment réagir après une mort qui traumatise, c'est quelque chose de d'important. Et je voudrais aussi que on aborde la question
Comment éviter le traumatisme des enfants par rapport à la mort? Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Je vous donne la parole.
Alors, moi, les enfants et la mort, ben, j'ai une histoire toute simple. Hein. Moi, j'ai perdu mon papa. Et il était à la maison avec nous et mes enfants étaient petits. Et je conseille toujours aux familles, quand je peux, hein, j'ai bien dit, hein, parce que d'emmener les enfants à la célébration.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi j'ai fait l'inverse. Mes enfants avaient une dizaine d'années et tout le monde l'a regretté. Donc
voilà. Nous sommes d'accord. Alors moi je sais que j'ai emmené notre fils, pas la petite elle avait 16 mois, mais notre fils je l'ai emmené. Évidemment j'ai été fortement critiquée autour de moi, mais je me suis aperçue que mes enfants, eh ben, il y a eu un moment où d'ailleurs ça m'a fait bondir parce que notre fils refaisait avec sa sœur, il transbahutait leur caisse à jouer comme un cercueil. Est évident qu'un jour je me suis mis à hurler parce que je ne supportais plus ce genre de choses. Et je verrais toujours notre fils me prendre dans les bras et me dire « Mais maman, le papy il est mort ?» Tu sais, ils mettaient du tabac partout. Regarde, t'as plus de tabac maintenant. C'est tout bien, tu es tranquille, tout va en paix, qu'il m'a dit. Alors, c'est resté gravé dans ma mémoire. Je pense qu'il faut emmener les enfants. Et il existe aussi de fort bons livres que, des fois, je conseille aux familles quand elles le souhaitent. Et dernièrement, ce que j'ai fait avec une famille, notre prêtre, dans une homélie, avait sorti une petite histoire de jumeaux. De jumeaux dans le ventre de la maman. Un qui se disait, bah, après, il n'y a plus rien. Et l'autre qui disait qu'il y avait quelque chose. Et il a comparé cette histoire à la mort et à la résurrection. Et on lui a demandé à l'équipe funéraille de nous donner ce poème, cette petite histoire. Je l'ai donné à une famille qui a reçu ça, pire qu'un texte d'évangile avec la résurrection.
Moi, je voudrais poser une question à Bernard. Oui. Enfin, pour répondre à sa question, je voudrais essayer de dire... Qui d'entre nous ici autour de cette table peut me dire de quoi demain sera fait? Qui de nous peut dire, tiens, comment on va faire avec les problèmes d'environnement, de réchauffement climatique? Qui de nous peut nous dire qu'est-ce que je vais faire de ma santé, comment je vais être? Qui de nous peut dire, tiens, mon petit-fils, ma petite-fille fera tel métier et tout? Vous voyez, on est confronté à l'avenir, on sait qu'on marche vers l'avenir... vers un avenir que l'on veut le plus épanoui possible, le plus vrai possible, le plus harmonieux possible, mais personne ne peut dire de quoi sera fait l'avenir. Or, pour un croyant, et nous sommes tous des croyants autour de cette table, la mort, c'est pas une fin, elle ouvre un avenir. C'est pour ça qu'on a du mal à répondre à cette question. Elle ouvre un avenir en Dieu. N'en demeure pas moins que toutes ces questions se posent. Mais elles se posent au moment où une maman met son enfant au monde, quand elle se pose la question de l'avenir de son enfant. Pour les croyants, la mort est un passage qui ouvre un avenir. Alors, il y a ce passage qui est difficile. Et c'est vrai que longtemps, on a joué les pères fouettards, la peur, le jugement de Dieu, tout ça, tu vois, il va juger, et puis ça va pas être bien, puis il y a l'enfer, et puis il y a le machin, puis il y a les flammes, et puis il y a les diables, et puis tout ça. Alors on le sait. Mais dans la Bible, si on lit les choses précisément, et si on interprète les textes avec justesse, c'est pas Didier qui fait ça, c'est l'ensemble de l'Église. Le jugement de Dieu, c'est être rendu juste par Dieu, être ajusté à son amour, être ajusté à son amour. Alors, j'ai pas de certitude, moi, quant à l'avenir. Je sais que je serai en Dieu. Et pourtant, je vais vous en dire une. L'éternité de Dieu, c'est un lieu où on vivra sans portefeuille et sans agenda. Enlever de notre vie les contraintes du fric et du temps, il ne nous reste plus qu'à nous aimer. Bien voilà, l'avenir en Dieu, c'est celui-là. Eh bien, alors c'est vrai que je peux trouver que mes défunts, ils sont partis trop tôt dans cet avenir de Dieu. Ça, c'est vrai. Et que ça me scandalise, et que ça me révolte. C'est vrai. N'empêche que pour nous, croyants, la mort ouvre un avenir. C'est la seule réponse que je peux faire, et encore. Il faut la faire, comme disait Françoise, avec beaucoup de délicatesse, et pas au moment, dans la crise aiguë de cette mort, que les gens ne comprennent pas, comme si tu voulais leur donner une leçon. Voilà. Deux, trois petites choses auxquelles je peux essayer de répondre comme ça.
Autrefois, on donnait le... Excuse-moi.
Vas-y.
Autrefois, on donnait l'image du ciel et de l'enfer. Tu viens d'esquisser une réponse par rapport à cela. Mais maintenant, on parle davantage d'un ailleurs. Bon, certains disent, sans pour autant porter trop référence au livre des morts tibétain ou au livre des morts égyptien, je crois qu'on peut parler aussi de ce que disent d'autres livres, on peut considérer que ce qui se passe pour certains, c'est que on est plutôt effectivement dans une autre vie et on a la conséquence de nos actes, c'est-à-dire que l'on est... Lorsqu'on se présente devant le Seigneur, on se présente avec ce qu'on a été. Oui. Donc, on est présenté avec le bien qu'on a pu faire ou le mal qu'on a pu faire. Je sais que maintenant, on ne parle pas trop du bien ou du mal.
Ça
ne me gêne pas de le faire.
Il faut en parler.
Bon, il faut bien quand même préciser les choses. Voilà. Alors, donc, la souffrance, l'enfer, ce serait peut-être de n'avoir aucun cadeau de réflexion par rapport au fait de ce que l'on voit, de ce qu'on a fait de pas bien.
Quand je dis tu es ajusté à l'amour de Dieu, ça veut bien dire qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faudra ajuster, qui n'étaient pas tout à fait dans le bien, et qu'il faudra mettre dans le bien et dans l'amour. C'est ça. Le jugement de Dieu, il t'ajuste. Alors, sais, quand tu fais de l'ajustage, il faut limer parfois. Moi, je peux te dire que quand je me regarde, je sais qu'il y aura 2-3 bricoles à limer quand même.
Non, mais c'est certainement, on aura tous droit à cela. Mais, ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans le livre des morts tibétains, il est dit que, je m'excuse de me référer à ça, mais il est certain que des auditeurs sont peut-être intéressés par cette façon de se raccorder à d'autres pensées. À savoir que, tout simplement, on n'a pas le... Quand on est sur Terre, si on a fait une bêtise, on se dit toujours, bon, si j'ai mis un marron à quelqu'un, c'est qu'il ne l'a pas volé. Mais là, non. Là, on voit qu'on a fait souffrir la personne. On voit les conséquences. Et c'est cette souffrance-là que le Seigneur, sans vouloir nous la montrer, nous juger ou nous punir, on la voit, elle est là. Et on a la souffrance des mauvaises actions, tout comme on a le bénéfice, ce que je veux croire, de choses bonnes qui ont été faites et qui rejoignent la bonté du Seigneur, qui lui est effectivement amour dans son intégralité.
Moi, je voudrais, oui.
On va écouter une plage de musique. C'est les moines de Tamier, Amour qui nous attend.
Voilà, nous sommes sur CFM 90.2, l'heure du carillon, des chrétiens qui animent cette émission mensuelle, avec un sujet difficile aujourd'hui, et vous le sentez bien dans nos conversations, dans nos idées, dans nos essais d'explication, et surtout, nous aussi, nos questions angoissantes, parce que la mort occupe le champ de notre conscience, pas toujours, mais elle est notre lot. Et on était en train de parler, juste avant la pause musicale, de faut-il de comment se situer face à la mort, quand on est avec des enfants ou quoi. Alors Bernard voudrait dire une petite chose, et puis après Christian, je crois.
Moi, je veux dire que pour faire face à l'avenir, il faut entretenir le souvenir. Les liens perdurent à partir de ce qu'il y avait de plus beau dans les gens qui sont morts. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient. Et ça... cet amour perdure, et pour moi ça a toujours été un exemple, la bonté de mon père, le soin qu'a pris ma mère pour mon éducation, ça a été important. Mais au-delà de la famille, je dirais que les morts dépendent de notre fidélité au niveau collectif. Quand on dit par rapport à la Shoah, par rapport à ce qui s'est passé dans ce 20e siècle de terrible, on ne dit plus jamais ça. Donc, il faut se souvenir pour que les horreurs du passé ne se reproduisent pas dans l'avenir. Ça me paraît très très important. Donc, je pense que si ceux qui ont simplement par leur passivité, qui est souvent de la complicité. Voilà. Je crois qu'il faut se repentir pour se réconcilier et pour envisager une autre société où il y aurait plus de fraternité, moins de haine, moins de conflits, moins de violence. Ça me paraît aussi très important. Bon, voilà ce
Alors,
que je voulais dire.
Christian voulait parler aussi des
enfants,
de la réaction face aux enfants. Enfin,
oui, moi je pense que vis-à-vis des enfants, il est important de rester dans la vérité, de ne pas leur mentir, et d'imaginer que la mort c'est tout autre chose, etc. Je crois que il est important, par exemple, de ne pas dire à un enfant, toi tu es trop jeune, ou tu es pas assez grand encore pour comprendre les choses, donc tu sauras plus tard, tu apprendras plus tard, tu verras plus tard. Je pense qu'il est bon de rester dans la vérité, et pour nous, chrétiens, dans la foi, en une autre vie, malgré tout, même si cette vie-là ne se voit pas, même si celui qui nous quitte, bien sûr, va demeurer absent pour toujours de notre vie terrestre.
Donc il ne faut pas leur cacher que c'est irréversible et qu'ils ne le reverront pas.
Exactement,
les papiers,
exactement, hein, exactement, bon, voilà, exactement.
C'est sûr qu'on est dans un monde qui, à la fois, veut occulter la mort, mais parce que peut-être qu'avec les moyens de communication et d'information, on est confronté quotidiennement à la mort. Regardez cette semaine, partout. Ouais. On est toujours confronté à la mort. Et il y a une tendance à vouloir préserver les enfants. Mais c'est une fausse, parce que c'est faux, parce que la mort fait malheureusement partie de la vie. Elle est le terme de la vie et le passage pour nous chrétiens.
Ils ne sont plus forts que si on leur en parle.
Mais je crois. Alors... Oui, vas-y Françoise.
Françoise Dolto disait ce mot, à partir du moment où tu viens au monde, t'es appelé à mourir.
Oui, c'est ça. Voilà, ton chemin de vie passe par là. Alors pour nous les croyants, comme tu dis Christian, et c'est important d'affirmer cette foi qui nous fait vivre, affirmer l'amour, affirmer les qualités de pardon et toutes ces choses-là qui sont des sens de la vie. Pour terminer, d'abord sur aujourd'hui, je voulais vous dire que la prochaine fois, nous aborderons une émission plus joyeuse. On parlera de Noël. Mais Noël aussi, dont le sens a été un peu détourné parfois. Hein. Donc on parlera de Noël. On verra comment. Nous n'avons pas encore préparé l'émission. Pour terminer, je voulais vous dire un petit poème de Gabriel Ringlet, qui est un prêtre, journaliste, et qui parle justement de ses qualités de vie qui font que l'on peut envisager la mort, ce que dans l'Évangile on appelle les béatitudes. Et avant d'écouter le dernier morceau de musique et de vous dire au revoir, je vous dis cela. Il disait, en parlant de Jésus, il disait « Heureux vous les hommes verdoyants, vous fertilisez la terre. » Il disait « Quelle chance les amoureux,
vos cœurs de braise réchauffent les hommes. » Il disait encore « Merveille, vous les résistants, vous les artistes, vous les acrobates, vous pour qui la foi ne tient qu'à un fil, vous encouragez notre traversée. » Il disait « Heureux, vous les vieillards sereins, vous apaisez le monde. » Il disait « Quelle chance, les enfants au cœur léger, vous réjouissez la maison. » Il disait encore « Merveille, vous les sculpteurs de paix, vous les tendres, vous les doux, vous les têtus de la douceur, vous faites reculer l'intégrisme. » Il disait « Heureux, vous les saltimbanques et les poètes, vos paroles et vos rires vont nous donner des ailes. » Il disait « Quelle chance, les allumeurs de réverbères, vous éclairez notre actualité. » Il disait encore « Merveille, vous les transparents, vous les ouverts, vous les fragiles, pas les tout propres, pas les tout blancs, pas les moralisants, pas les interdisants, mais les brûlants, les désirants. Avec vous, la passion a encore un avenir. » Bonne semaine à tous et nous écoutons un dernier morceau de musique. Merci à chacun.